L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Nicole Nouriga et Marie-Christine Perel-Roisen. Toutes les deux font partie d'un collectif pour la Marche mondiale des femmes. Alors, nous en avons déjà un peu parlé puisque nous avions annoncé une manifestation le 8 mars. Le 8 mars était en effet le départ de cette Marche mondiale des femmes. Alors, nous voulons aussi aujourd'hui vous expliquer où ça en est.
Alors, ce 8 mars était très sympathique. On n'était pas beaucoup sur la place de la Comédie, mais toutes les associations impliquées pour la cause des femmes étaient là, soutenues par d'autres. On a eu le temps de parler, tout le monde a pu un petit peu s'exprimer, et puis nous avons eu le plaisir, pour une fois, d'avoir les médias avec nous.
Oui, alors il y avait quelque chose de très visuel qui se passait sur cette place de la Comédie, puisque vous aviez des graphistes.
Oui, en fait, nous avions des graffeurs.
Ah, des graffeurs, voilà. Oui.
Oui, nous avions quatre graffeurs qui avaient accepté bénévolement de venir illustrer le thème de la violence physique que subissent les femmes et donc qui ont réalisé leur œuvre pendant toute la matinée devant le public. Ce qui a eu d'abord un intérêt particulier, c'est que les gens se sont arrêtés pour les regarder. Et à partir de là, les gens se sont intéressés au sujet et sont venus vers les stands où les associations, qui étaient diverses et variées, ont pu parler des campagnes qu'elles menaient pour lutter à la fois contre les violences, mais également contre les inégalités dont souffrent les femmes.
Oui, alors vous, quelles étaient toutes ces associations qui font ces collectifs ?
Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait d'abord la Maison des Tiers-Mondes, qui, à Montpellier, était déjà elle-même un collectif d'associations de solidarité internationale et dont beaucoup traitent des questions des femmes. Il y avait, par exemple, l'AFPS, qui parlait de la situation des femmes en Palestine. Et il y avait également les gens du collectif de l'éthique sur l'étiquette, dont on parlera après avec la thématique des ouvrières du Rana Plaza. Il y avait Amnesty International, qui défendait une pétition sur la situation des femmes en Égypte. Et puis, pour ce qui était de la situation en France, on avait le planning familial, donc de l'Hérault, qui était là pour expliquer toute son action en direction des femmes. Il y avait Femmes et Action en Méditerranée, qui est une association montpelliéraine aussi, qui s'occupe des femmes. Et puis, nous avions le soutien de la Direction régionale du droit des femmes, qui avait également donné toute une documentation sur les programmes mis en place pour lutter contre les violences.
Oui, alors, c'était un dimanche, le 8 mars, et vous avez eu la presse.
Voilà. Alors, il y avait aussi, j'ai ajouté la Ligue des droits de l'homme aussi, qui était venue nous rejoindre, ainsi qu'un certain nombre de représentants de partis politiques et de syndicats.
Oui, donc l'intérêt quand même s'est manifesté pour ce rassemblement qui était pour marquer le début de cette fameuse marche mondiale.
Alors, le début de cette marche qui s'est donc répandue à travers le monde, donc si vous êtes curieux, vous pouvez regarder sur les sites de la marche mondiale internationale ou française.
Elle partait d'où, cette marche ?
Alors, elle partait du Turkestan turc. Et là, elle a traversé la Turquie. Puis elle est passée en Grèce, s'est arrêtée à Thessalonique un moment.
Oui, du 17 au 19 mars, c'était en Grèce,
voilà,
en effet.
En Grèce. Maintenant, elle va arriver à Bucarest, puis continuer son chemin pour être à Sofia à Pâques. Et après, elle continue à travers les Balkans, à travers la Serbie.
En tout, ces femmes vont faire 17...
4000 kilomètres de parcours dans toute l'Europe.
Et oui, le but est qu'elle traverse la majeure partie des pays européens, dont la France, pour arriver au Portugal au mois d'octobre. Et cela sera le forum de conclusion de la marche pour la partie européenne, puisque cette année, contrairement aux autres années, la marche mondiale est divisée par continent.
Oui, alors le 17 octobre, c'est généralement la date qui est prévue pour la fin de cette marche, parce que c'est la journée de lutte internationale contre la misère.
Oui, mais, parce que,
la marche mondiale a un titre complet qui est contre les violences et la pauvreté. Voilà, donc c'est réunir évidemment les deux. Et alors là, vous avez, comme vous le disiez tout à l'heure, eu la presse d'une manière importante.
Oui, on a une excellente couverture avec plusieurs interviews. Donc ce n'était pas simplement que les images de la part des Fer 3, interviews qui ont été diffusées au journal de 19h. Nous avons eu TV Sud qui a fait un city reporter de 7 minutes. Donc en prenant vraiment le temps d'aller s'intéresser à chacun des aspects de la marche mondiale. Et puis nous avons le Midi Libre qui effectivement a couvert l'événement avec un article le surlendemain, puisqu'entre-temps nous avions été un petit peu bousculés par une bagarre de supporters de football, paraît-il, qui avait pris la une le lundi.
Ah en effet. Alors, il y a eu aussi un témoignage symbolique du travail des femmes dans la région, puisque un mûrier était prévu et a été planté.
Oui, exactement. Le mûrier est très représentatif du travail des femmes dans notre région depuis 1603 jusqu'à 1968, donc relativement récent, et encore quelques usines d'ailleurs dans le Gard. Mais c'était surtout les femmes qui travaillaient,
qui nourrissaient les vers à soie.
Nourrissaient les vers à soie, leur permettaient de grandir, puis après d'évider les cocons pour avoir le fil, puis tisser, puis confectionner. Donc c'était toute une industrie de notre région. Alors ce mûrier a été confié à l'association Vert Popa.
C'est quelle association?
Les vergers et potagers partagés, qui se trouvent à Malbosque.
Et donc, a été planté là.
Voilà, l'après-midi, avec toute l'association Vert Popa et puis des personnes du quartier. C'était une après-midi vraiment partagée.
Et donc, c'est Vert Popa qui, lors du passage de la caravane des femmes à Montpellier au mois de septembre, aux alentours du 22 septembre, puisqu'elles vont d'abord s'arrêter à Marseille, où il y aura pendant 3 jours un forum autour de la situation des femmes en Méditerranée. Donc la caravane quittera Marseille, passera par Montpellier, et donc Vert Popa a accepté de nous accueillir pour que l'on puisse avoir une soirée et que les femmes de la caravane puissent nous raconter tout leur périple depuis la Turquie. Il faut savoir également que tout au long de leur périple, elles vont s'occuper de collecter des graines et d'échanger des graines, puisqu'elles ont pris comme thème principal les femmes et la souveraineté alimentaire. Donc ce qui tombera très bien avec cette association, ce partenariat, je devrais dire, que nous avons tissé avec Vert Popa pour les accueillir.
Oui, en effet, il faut rappeler que l'année 2014 ayant été consacrée à l'agriculture familiale, justement, les femmes de la Méditerranée reprennent ce thème très important de la souveraineté alimentaire. Et à Fribourg, justement, le 21 mars, le jour du printemps, cette caravane suscite des actions. Et à Fribourg, il y a eu une journée des semailles.
Voilà, et puis il y en aura sur d'autres en Europe. Bien sûr, on n'a pas encore toutes les dates, parce que les choses se font les unes après les autres, au fur et à mesure que les régions se mobilisent. Mais il est vrai que les thèmes habituels de la marche mondiale, c'est-à-dire la violence, les guerres, la paix, l'autonomie des femmes et la pauvreté, la précarité, également la montée des intégrismes, l'immigration, donc qui sont des thèmes classiques de la marche depuis 15 ans.
Oui, je rappelle le slogan, tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche.
Voilà, et alors cette année en plus, se sont ajoutées la question des biens communs, de la souveraineté alimentaire et de la justice climatique.
Oui, donc on ne peut pas oublier cette très grande question qui va être traitée tout au long de l'année 2015 jusqu'au colloque qui doit avoir lieu en France fin 2015. Effectivement, beaucoup de choses se préparent sur le climat et là, les femmes n'oublient pas évidemment ce sujet. Alors, avec toutes ces associations qui se sont réunies pour faire connaître cette action sur le problème des femmes dans le monde, parce qu'on peut dire que le monde est vraiment tout entièrement concerné, il y a aussi des problèmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et nous allons en reparler, le problème des femmes au travail.
Oui, tout à fait. La précarité du travail qui touche essentiellement les femmes, mais également en ce qui concerne les femmes dans les pays en voie de développement, beaucoup de misère et de pauvreté et d'exploitation, et ça donnera lieu à une soirée le 24 avril en mémoire des ouvrières qui ont été victimes de l'effondrement du Rana Plaza.
Alors nous allons donner peut-être la parole aux femmes qui chantent. Avec un disque qu'a apporté Nicole Nouriga.
Alors, ce disque est d'une chanteuse camerounaise qui s'appelle Anne-Marie Ntsié. Et elle est dans sa langue, bien entendu. Mais l'essentiel de ce qu'elle chante, c'est « Nous en avons assez de cet éternel procès qui est fait aux femmes. » Et elle sait de quoi elle parle parce qu'elle a elle-même, pour se faire une place, dû pas mal lutter.
Oui, dans son pays même.
Dans son pays même et en Afrique.
Voilà, alors nous allons écouter.
Tu n'es pas bien en langue. Vous dites que, oh non, maman, non, maman.
Voilà donc une musique d'une Camerounaise qui chante évidemment le combat des femmes dans son pays. Alors nous parlions là tout à l'heure des femmes au travail et justement il s'est passé un événement épouvantable le 24 avril 2013 à Dhaka au Bangladesh. Le Rana Plaza, un immeuble dans lequel travaillaient 4000 ouvriers du textile, s'est effondré en faisant plus de 1100 victimes et essentiellement des femmes.
Voilà, effectivement. Et alors, ce qui est le plus dramatique, c'est que lorsque l'on reprend le cours de l'information, ce bâtiment avait été évacué la veille parce qu'on avait constaté des fissures et que l'on a contraint les ouvrières et les ouvriers à revenir travailler le lendemain, jour où il s'est effondré pour de bon. Donc, on avait déjà conscience qu'il y avait un danger. Mais je dirais que la pression pour économique a été la plus forte et les gens ont été obligés de revenir travailler alors que l'on savait pertinemment qu'il y avait une situation de danger.
Voilà, alors il faut rappeler qu'ils venaient travailler pour du textile qui est vendu après...
dans les pays occidentaux.
Oui, dans les pays occidentaux qui fabriquent nos vêtements et qu'on a trouvé sur le chantier de cette catastrophe des étiquettes qui prouvaient que ces vêtements appartenaient à des marques que tout le monde connaît.
Des marques très connues, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient espagnoles, anglaises, américaines. Donc effectivement, il y avait des sous-traitants directs et peut-être des sous-traitants de sous-traitants, ce qui constitue tout le problème justement de savoir comment peut-on contrôler et vérifier que les personnes qui fabriquent les vêtements que nous utilisons respectent bien les droits du travail. Et je pense que Nicole, qui a vu le film, pourrait peut-être nous dire quelques mots justement sur la réalité de ces situations.
Oui, alors justement, le film s'appelle « Les damnés du low cost ».
Alors ce film, c'est une enquête. Une enquête bien menée sur tout ce qui a pu amener à cette catastrophe, et notamment le rôle des trans multinationales, si on peut les appeler comme ça, qui à travers le monde font des commandes sans, au moins cher possible, sans vérifier comment ça se passe dans la réalité, combien sont payés les gens, quelles sont les sécurités, quel est le droit de travail, s'il existe ou pas. Et c'est sûr que la marche mondiale s'est un petit peu attachée, à travers toutes ces actions, à lutter contre ces méthodes qui sont désastreuses pour tout le monde.
Voilà, alors c'est le collectif de l'éthique sur l'étiquette qui a promu évidemment ce film et qui le présentera avec le collectif pour la marche mondiale des femmes le 24 avril au cinéma Diagonale.
Voilà, le 24 avril à 18h, de 18h à 20h, puisque le film qui dure 52 minutes, c'est un film documentaire qui dure 52 minutes, sera suivi ensuite d'un débat où seront représentés donc le collectif d'éthique sur l'étiquette qui pourra donner les dernières informations concernant les entreprises qui ont accepté d'indemniser les victimes, parce que beaucoup ont nié leur implication, même si on a retrouvé des étiquettes sur les lieux du drame, et beaucoup ont nié leur implication et donc refusé d'indemniser les victimes, qu'elles soient les familles des personnes décédées ou les personnes blessées. Il y aura également Jean-Louis Roumégas, qui est député vert pour l'Hérault, qui viendra parler de l'action au niveau du Parlement d'une proposition de loi visant à renforcer la vigilance des groupes multinationaux sur leurs sous-traitants, et Claire Hart, qui elle est présidente de Facero, donc déjà engagée dans la promotion de la responsabilité sociale des entreprises. Voilà. Donc ce sera un débat qui permettra aux gens de poser des questions à la fois sur le film, sur la réalité et l'avenir des personnes que l'on aura vues dans le film, mais plus généralement sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus.
Oui, en effet. Alors je rappelle que c'est tout à fait d'actualité ce que vous dites, puisque le 30 mars, la proposition de loi sur le devoir de vigilance, justement des multinationales, sera examinée à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi conduira les multinationales françaises à mettre en place et communiquer un plan de vigilance pour prévenir les atteintes aux droits de l'homme et de l'environnement dans leurs filiales et chez leurs sous-traitants. C'est ça qui est très important. Mais derrière cette proposition de loi, des vies sont en jeu, comme on l'a vu là,
oui,
au Rana Plaza. Et actuellement, il y a un vide juridique qui constitue une incitation à brader le social et l'environnemental. Et c'est pour cela qu'il est très important que cette proposition de loi aboutisse. Alors, il y a des propositions qui ont été faites par le collectif et une conférence de presse va se tenir dans les locaux de la CFDT mercredi 25 mars à 10h à Paris, donc, où seront Amnesty International, les Amis de la Terre, le CCFD Terre Solidaire, la CFE-CGC, la CFDT, la CFTC, la CGT, le collectif éthique sur l'étiquette, le Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises, la Ligue des droits de l'homme, Peuple solidaire, Action Aide France et l'association Sherpa. Donc un collectif très important pour que cette proposition de loi aboutisse et nous vous tiendrons bien sûr au courant de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale puisque c'est le 30 mars que cela doit se discuter. Alors, là, dans le film, la réalisatrice
Anne Ginsburger
est partie suivre Naya Ajaltouni qui est coordinatrice du collectif de l'éthique sur l'étiquette et Antonio Manganella, qui est du comité catholique contre la faim et pour le développement, et c'est eux qui ont mené cette mission au Bangladesh. Donc le film est très important aussi pour l'implication de ce collectif dans cette histoire. Parce qu'il faut interpeller l'opinion publique pour qu'il y ait vraiment un suivi de cette affaire.
Une prise de conscience. Et c'est pour ça qu'avant la soirée du film documentaire, il y aura une action qu'on appelle « die in », comme le sitting où on est assis. Là, on sera allongé avec des masques mortuaires pour que justement les gens... C'est un petit peu comme ce que l'on a fait pour la Journée mondiale des femmes, c'est-à-dire une espèce d'interpellation visuelle pour que les gens acceptent de s'arrêter et acceptent d'écouter et de prendre un peu conscience de ces faits-là. Parce que si on se contente de donner un tract, les gens passent, ne s'arrêtent pas, le mettent dans la première poubelle. Là, le die-in, même si on peut reprocher cette expression anglo-saxonne, a le mérite de... faire que les gens s'arrêtent pour voir, pour savoir pourquoi. Voilà. Et c'est le début d'un dialogue et c'est le début peut-être d'une prise de conscience que les gens se disent, ben, finalement, ce vêtement que j'ai acheté, qui n'était pas cher, qui me plaisait, voilà, il est fabriqué dans des conditions que je ne savais pas ou que je ne voulais pas savoir et il peut aboutir à des drames comme celui du Rana Plaza.
Voilà, donc c'est très, effectivement très important de mener cette action. Elle sera bien sûr menée dans beaucoup d'endroits différents de France, mais aussi ailleurs.
Du monde.
Et ailleurs.
Du monde,
un petit peu partout.
Voilà, c'est... donc cette marche mondiale des femmes, cette caravane qui sera présente en septembre à Montpellier, le 22 septembre, je crois.
Normalement, c'est la date retenue, 22 septembre.
Prend en compte ce jour-là, justement, cet anniversaire de cet événement terrible, puisque c'est les femmes qui ont payé de leur vie.
Le plus lourd tribut, oui.
Voilà, un lourd tribut. Et puis, on a obtenu que les entreprises de textile revoient évidemment les mesures de sécurité.
Oui, c'est toujours un combat.
Il y a tout un travail qui se fait.
Il y a un travail perpétuel depuis que le collectif de l'éthique sur l'étiquette s'est lancé dans cette campagne. Et à chaque fois, il y a des failles. À chaque fois, il y a le problème du sous-traitant, ou bien c'est un importateur, ou bien c'est un sous-traitant d'un sous-traitant. Donc, à chaque fois, il faut continuer, ne jamais lâcher, pour arriver à obtenir un résultat qui permette à ces personnes de travailler dignement, tout simplement.
Donc, c'est rejoint aussi une campagne que mène ce collectif pour le salaire vital.
Exactement. Tout se tient.
Et nous devons tous donc lutter contre ces exploitations. Nous devons construire et créer des alternatives à ce système.
Et il faut savoir que l'accord que l'on propose à ces multinationales, il a été élaboré avec les syndicats bengalais. C'est-à-dire que c'est pas un copier-coller de ce que l'on fait chez nous. On est allé voir les travailleurs sur place, leurs syndicats, et il y a des textes qui ont été élaborés à partir de la demande des personnes au Bangladesh. Voilà, c'est ça qui est important. C'est aussi de prendre en compte leurs aspirations et leurs demandes. Ce n'est pas simplement une poignée d'Européens qui diffusent des idées. C'est vraiment une prise en compte des travailleurs localement et de leurs paroles.
Voilà, donc si on veut joindre le collectif de l'éthique sur l'étiquette, on peut le faire à la maison des tiers-monde et de la solidarité internationale, 27 boulevard Louis Blanc, où on trouvera bien sûr les coordonnées.
Sur la page du site internet de la maison des tiers-monde.
Voilà. Également, vous pouvez consulter le site du collectif national qui donne toutes les explications sur l'action. Donc, collectif éthique-sur-l'étiquette.org. Nous allons à nouveau écouter la chanteuse camerounaise. Alors, nous allons terminer par le calendrier des activités de cette semaine et de ce qui vient. Eh bien, dès ce soir, c'est l'avant-première du film Le Chalat de Tunis. La projection débute au Diagonal à 20h et sera suivie d'un débat avec Kauter Benagna, qui est la réalisatrice de ce film, et l'association Coup de Soleil, ainsi que le Fonds pour les femmes en Méditerranée. Alors, ce chalat de Tunis raconte qu'avant la Révolution, une rumeur courait, un homme à moto, armé d'un rasoir, balafrerait les fesses des femmes. Des femmes, bien sûr, vêtues à l'occidental. Alors, tout le monde en parle, sans que personne ne l'ait jamais vu. Et 10 ans plus tard, sous fond de post-révolution, donc, les langues se délient. Et bien sûr, la réalisatrice a voulu parler du machisme et de la place des femmes dans la société tunisienne. Donc c'est ce soir à partir de 20h. Ensuite, mercredi 25 mars, ce sont les rencontres moustiques. Alors, à Montpellier, Supagro. Elles ont lieu de mercredi 25 à vendredi 27. Sur les usages sociaux des TICS, le numérique, au service de la coopération, de l'éducation, de la formation. Vous pouvez regarder le site moustique.info 2015 ou bien rentrer en contact avec contact@moustique.info. Et samedi 28 mars, donc, aura lieu un débat. Non, je me trompe, c'est mercredi 25 mars. Donc, le premier jour de ces rencontres moustiques, a lieu une conférence débat à 18h à Polytech Montpellier, sur le campus Triolet, place Eugène Bataillon, dans l'amphi Serge Pétavin, au bâtiment 31. C'est une conférence avec Louis Pouzin. Vous pouvez vous renseigner au 04 67 14 31 62. Et puis, c'est la semaine de l'environnement. Et la semaine de l'environnement, samedi 28 mars, à la Fac des sciences, à la Maison des étudiants, de 10h30 à 14h, on traitera de l'agriculture locale, peut-elle nourrir nos villes ? Il y aura un buffet de produits locaux à prix libre, qui est organisée par les étudiants de Sciences Po. Également, samedi 28 mars, c'est le collectif Non à Oxylan qui proteste contre le projet Décathlon, qui veut construire un grand complexe commercial sur 23 hectares de terres boisées et cultivées aux portes de Montpellier. Ce grand projet inutile et destructeur de l'environnement, donc, est mis en cause par les habitants. Il y aura un pique-nique festif à partir de midi, route de Ganges, à l'intersection de Grabel-Saint-Clément. Il y aura sur place boissons, musique, débats, deux tables rondes et un projet agricole alternatif sur les 23 hectares de terrain sera présenté. Alors, vous pouvez peut-être, mesdames, rappeler vos coordonnées. Où peut-on joindre la marche mondiale des femmes?
Alors, ici à Montpellier, Nicole Nouriga, 04 67 72 10 46. Et puis, vous renseignez plus largement sur les sites de la marche mondiale.
Voilà le site de la marche mondiale,
mmf.fr.
Voilà. MMF en minuscule.
Et puis, bon, le collectif de l'éthique sur l'étiquette est joignable aussi sur son site, bien sûr, ainsi que sur le site de la Maison des Tiers-Mondes, mtmsi.org. Merci à vous. À bientôt, chers auditeurs.